Le voleur de panda par Alain Surjet. Troisième cassette, première face, page 105. Chapitre 8, les trafiquants de fourrure. Kim ne s'était pas enfui. Il avait été enlevé dans sa cage. Tao releva les empreintes d'un grand cheval près du camp, tendit le bras vers le sud pour indiquer la direction prise par l'inconnu. C'est notre cavalier, souffla l'enfant. Ming pinçait les lèvres si fort qu'il semblait ne plus avoir qu'une fente en guise de bouche. C'est de ma faute, dit Tao, j'aurais dû placer un garde près du panda.
Non, non, il aurait été tué, dit Ming. Cet individu nous suit depuis Wutong Kiao, mais je croyais l'avoir semé au monastère de Leshan. S'il a entendu parler du voleur de Chongqing, il a dû faire le rapprochement.
Alors, il peut aussi apporter le malheur sur notre village s'il nous dénonce, dit Tao. Il n'y manquera pas, intervint Li, dont le cœur battait à tout rompre. Il aura ainsi et le panda et la prime. Il faut le rattraper, s'écria Tao. Le temps de harnacher deux chevaux, de saisir au vol leur fusil et un sac de provisions, Tao, Ming et Li Fong galopaient à la poursuite du voleur. Au cours de la chevauchée, comme il prenait plus d'assurance, il desserra son étreinte. Ses doigts vinrent empoigner la casaque à la hauteur des hanches, juste au-dessus des poches. Une idée folle lui traversa l'esprit. Si j'osais ! Le cœur battant, il allongea les doigts, les glissa dans la fente d'une poche. Il profita d'un bond plus rude pour les y plonger complètement. Rien. Alors c'était dans celle de gauche que Ming conservait la clé de la cage. Avec une infinie patience, l'enfant avança la main au fond, tout au fond de l'autre poche, sentit l'objet sous ses doigts, l'enferma dans sa paume et ressortit sa main. Ils galopèrent jusqu'au milieu du jour sans s'arrêter, dévalant des langues de rocailles, frôlant les précipices, gravissant des pentes, s'élançant sur les hautes planitudes qui s'ouvraient parfois devant eux. Ils burent et mangèrent en selle, à la façon tartare, malgré les exhortations de Li, qui, les reins moulus, s'évertuait à réclamer une halte. Un geste du bras. Tao arrêta sa monture, montra une éminence au loin, au milieu des rochers. « Il est là-bas, » dit-il. « Je sens l'odeur de son feu. »« Il n'est pas très prudent, » remarqua l'enfant. C'est parce qu'il ne connaît pas l'endurance de nos chevaux. Aucune autre bête n'aurait pu tenir depuis l'aube jusqu'au midi sans prendre de repos. Il était temps. Nous n'aurions pas pu suivre ses traces plus loin, car le massif du Dalyangshan commence au-delà. D-A-L-I-A-N-G, trait d'union S-H-A-N.
À mon avis, il cherche à rejoindre Kunming. K-U-N-M-I-N-G, annonça le vieil homme.
Kunming est la capitale du Yunnan, la province la plus méridionale de la Chine, qui touche le nord du Vietnam.
Oui, dit Tao, et ensuite Hanoï, au Vietnam, par la vallée du fleuve Rouge. On a sûrement affaire à un trafiquant de fourrure.
C'est ce que je craignais, souffla Ming. Qui sait combien d'animaux il a déjà massacrés.
Il va falloir le contourner si on veut le surprendre.
Ming demanda à l'enfant de descendre, mais celui-ci refusa avec véhémence, disant qu'il n'était pas venu jusque-là pour se laisser écarter au moment crucial. Et puis, ajouta-t-il, le panda me connaît, il se laissera approcher s'il n'est plus dans sa cage, tandis qu'avec vous... Tao haussa les épaules. Ming soupira. Ils repartirent au pas, opérant un large arc de cercle parmi les rochers, afin de n'être point découverts. Attention, avertit l'éleveur. Il n'est peut-être pas seul là-haut. Il leur fallut plus d'une heure pour atteindre le pied de l'escarpement. Ils abandonnèrent les montures à la garde de l'enfant, puis, chacun par un côté, Tao et Ming entreprirent l'escalade du versant.
Garde les bêtes, mon gré Li. Elles se garderont bien toutes seules.
Il enroula les rênes autour d'une grosse pierre, observa l'avance des deux hommes,
puis se décida à grimper droit devant lui, afin, se dit-il, de surprendre l'ennemi par trois endroits à la fois. L'escalade fut aisée car il y avait nombre de roches, de racines et d'arbustes à agripper. Quand il parvint au sommet, il se faufila entre les blocs et se retrouva à la verticale d'un espace plus dégagé, presque plat, piqueté de buissons et de quelques grands pins. Un feu brûlait au centre, autour duquel mangeaient deux hommes. Li reconnut la cage du panda, parmi d'autres, alignés à l'écart devant un bosquet qui s'étalait en pente douce sur l'autre versant. Leurs chevaux sont là-bas. Je les entends qui s'ébrouent. Ils ont capturé des chats dorés, des singes comme j'en ai vu aux zoos, avec de longs poils gris et des reflets dorés sur le dessus depuis la tête jusqu'à la queue. Dans une cage plus grande, une superbe panthère des neiges, un irbis, IRBIS, était couché sur le flanc, les yeux mi-clos, grognant légèrement.
Quel dommage que les chevrotins porte-musc soient devenus si rares, se lamentait un trafiquant. Les industriels de la parfumerie payaient très cher pour obtenir le musc.
Le musc, c'est un produit de certaines glandes de certains animaux, notamment les chevrotins, et qui sert de parfum. Il est utilisé pour faire des parfums. L'autre jeta un regard vers les cages.
Le panda et l'irbis nous rapporteront gros si on les vend à un cirque ou à un zoo. Quant aux singes et aux chats, on va les abattre sur place et les dépecer. L'hiver approche, la traque est terminée. On va pas s'encombrer toutes ces cages pour leur tour.
Il faut partir, dit le premier en se levant. Les autres ont dû se lancer sur mes traces.
Ils ne nous rattraperont pas. On a le temps de tuer les bêtes et de charger les fourrures sur le chariot. Le terrain est tellement rocailleux après ce petit bois qu'il ne laisse aucune trace. Nous serons à l'abri chez nos Dang, N-O, trait d'union D-A-N-G, bien avant que tes éleveurs aient fouillé le quart de la montagne.
Li Fong se pencha pour regarder l'homme s'approcher des singes.
C'est pas vrai, il va les... Mais où sont Ming et Tao? Qu'est-ce qu'ils fabriquent?
L'enfant s'avança trop.
Son pied glissa dans le vide. Il se retint au rocher qu'il masquait, le sentit bouger, vaciller sur sa base. D'un coup de rein, il se rejeta sur le côté, tomba sur le dos, glissa sur la pente.
Ses jambes heurtèrent le roc, s'y appuyèrent. Il tenta de se rétablir d'une flexion, mais déséquilibré, le bloc culbuta en même temps que le sol cédait sous le poids du garçon. Terre, caillasse, racines, Li Fong dégringolèrent dans une cascade crépitante. Le rocher frappa la cage de l'irbis, la projeta en arrière. Li roula jusqu'au pied du trafiquant.
« Alors ça !»
s'exclama l'homme en portant la main à son poignard. L'autre arriva en courant.
« Qu'est-ce que c'est que ce gosse » rugit-il. « Tuons-le ! Si celui seul-là est ici, le vieux ne doit pas... »
Deux coups de feu, chacun tiré d'un coin différent. Les trafiquants pivotèrent sur les talons. L'un voulut chercher son fusil, l'autre cria de s'abriter dans le bois. Profitant de leur affolement, Ming et Tao se ruaient à l'assaut en brandissant leurs armes, hurlant comme s'ils poussaient une charge. Trompés par la poussière qui achevait de tomber, se croyant attaqués par un fort parti, les deux bandits choisirent leur salut dans la fuite. Ils coururent d'abord vers leurs chevaux, mais lorsqu'ils virent que Ming leur coupait la route et les mettait en joue, ils firent demi-tour et se précipitèrent le long de la pente au risque de se rompre les os. Tao et le vieil homme s'élancèrent derrière eux, décidés à les terroriser tout à fait. Li venait d'ouvrir la cage du panda avec la clé dérobée quand un feulement de colère éclata dans son dos. Il se retourna. La panthère était là, fouettant l'air de sa queue, ses yeux dorés fixés sur lui. Il n'osait plus bouger. Sa gorge devint sèche. Une brusque coulée de sueur lui plaqua sa chemise sur la peau. Kim aussi avait vu le prédateur, mais loin de rester figé, il jaillit de sa cage, bouscula le garçon, se rua vers un pin tout proche. L'irbis marqua une seconde d'hésitation, partagée entre lui et le panda, puis d'une virevolte, il fut derrière l'animal.
« Non !» hurla l'enfant.
Sauvé le panda des griffes du fauve, l'emporta sur la peur. Il se précipita vers le feu, attrapa un brandon, revint en courant vers l'arbre que gravissait le panda. La panthère des neiges, prête à s'accrocher d'un bond à l'écorce, vit Li Fong foncer sur elle, le feu brandi au bout de la main. Elle poussa un formidable rugissement pour le dissuader d'approcher.
porta à nouveau son attention sur le tronc, sur les branches là-haut où sa proie s'était réfugiée. Mais le garçon s'entêtait à fourrager l'air de sa torche, telle une épée, faisant virevolter la flamme devant sa gueule. L'Irbis recula en grondant. Ses crocs étaient découverts dans une grimace de défi. Lee avança, colla son dos au pin pour en interdire l'accès. « Arrière ! Arrière ! » criait-il d'une voix étranglée. La panthère sentait que le courage abandonnait son adversaire, qu'il faiblissait, qu'il était acculé contre l'arbre. Alors, elle se ramassa sur elle-même, se resserra en une masse, tout en muscles, calcula sa détente. Une détonation. Quelque chose frappa le sol devant elle, souleva un jet de terre. Presque simultanément, un second coup la fit tressaillir. Une pierre éclata, lui projeta ses débris à la tête. L'animal sauta en arrière, sa patte griffa l'air. Deux silhouettes apparurent, gesticulant, courant dans sa direction. Le fauve rauqua, jeta un regard menaçant à l'enfant, se décida à rompre le combat, lentement d'abord, à reculons, puis de toute sa vitesse, quand l'air s'emplit d'une pétarade assourdissante et que les balles sifflèrent à ses oreilles. Décrépitement, Kim descendait le long du tronc. Lee le serra dans ses bras à l'étouffer. De grosses larmes roulaient sur ses joues sans qu'il cherchât à les retenir. C'étaient des larmes de fierté et de joie, des larmes que l'on verse après une violente émotion. Sentir la fourrure douce du panda contre sa joue, sa truffe humide sur sa gorge, c'était retrouver d'un coup l'intimité, une relative sécurité. « C'est bien, souffla Ming. Tu as risqué ta vie pour le sauver. »«
Mais je ne voulais pas le perdre. Il représente tant pour moi. Je ne veux pas qu'on l'enferme dans un zoo, ni dans la ménagerie d'un cirque. Il a le droit de vivre, lui aussi. »«
Ramène-le dans sa cage, » dit Ming très doucement. Lee raffermit son étreinte autour du cou de Kim.
« Non !»
Comment ?
Non !
Le vieil homme releva le canon de son fusil. Chapitre 9. Lemei Shan. E-M-E-I. Plus loin, S-H-A-N. Le vieil homme releva le canon de son fusil, empoigna l'arme de la main gauche, la tendit à son neveu. Ming vint s'accroupir à côté du garçon.
Que veux-tu exactement ? Demanda-t-il.
J'ai envie de le relâcher.
« Ici ? Mais tu veux qu'il meure ? Les singes, les chats, oui, on va leur rendre la liberté parce qu'ils sont capables de survivre dans cette région. Même la panthère des neiges. Avec l'hiver, elle sera dans son élément. Elle aura le temps de migrer avant l'apparition du printemps. Mais un panda, tu sais ce que ça mange, un panda en liberté ?
Des pousses et des feuilles de bambou ? Admit Lee dans un murmure.
Alors ? Lee retira ses bras du cou de l'animal, le conduisit vers la cage en poussant un gros soupir. Ming avait raison. Ming avait toujours raison. L'enfant ne voyait vraiment pas comment sauver le panda.
« La clé !» dit le vieil homme en ouvrant sa main.
Le garçon fit claquer l'arceau du cadenas, verrouillant la grille, puis tendit la clé d'une moue dépitée.
J'ai l'impression que tu te soucies plus du panda que de ton propre sort. Tu changes, petit, tu changes.
Lee Fong haussa les épaules. Vous avez l'intention de trahir votre parole, de ne pas me ramener chez moi ?
Je préfère quand tu me tutoies.
Les deux hommes ouvrirent les cages des singes et des chats dorés, les regardèrent bondir dans toutes les directions, fous de liberté, puis ils allèrent entasser les cages sur le chariot et y mirent le feu.
« Je te laisse les provisions et les mules des trafiquants, » dit Tao en fourchant son cheval.
Ming serra la dernière sangle qui fixait la cage sur le dos d'une mule, leva la main en signe de salut.
« Je te verrai dans 4 jours, » répondit-il.
Tao arrêta son regard sur l'enfant et sourit.
« Je saurai si le petit poisson de New Kwa a grandi, » dit-il.
Et il partit au grand galop, entraînant le second cheval par sa longe. Lee aida à trier l'équipement des bandits, attacha la toile de tente et les couvertures sur la mule de bas.
« C'est quoi les Meishan ? » demanda-t-il. « C'est là où tu te débarrasseras du panda ? »
C'est là, en effet.
Mais à qui vas-tu le vendre? À quel zoo? À quel pays? À quel cirque? Pourquoi ne pas le ramener à Chongqing? Tu pourrais dire que tu l'as enlevé au voleur. La prime serait pour toi si c'est l'argent qui t'intéresse. Je dirais que c'est vrai. T'as pas confiance?
Je crois que si. Mais je ne le ferai pas.
Le garçon prit un ton mordant pour déclarer. Tu gagnes plus en le vendant. Je suis sûr que tu as libéré les singes et les chats uniquement parce que tu ne savais pas comment les transporter. Le chariot ne doit pas pouvoir passer là où tu vas.
Ming grimpa sur une mule, fit signe à Li de s'installer derrière lui.
Alors toi, Li, tu penses que le zoo de Chongqing lui convient mieux que tout autre lieu?
Au moins il est chez lui, dans son pays.
Chez lui, chez lui. Tu as cependant raison sur une chose. Les chiens, les singes et les chats n'auraient fait que m'encombrer.
Un claquement de langue, une pression des talons, et les trois mules s'ébranlèrent. Ils marchaient depuis un bon moment quand Li s'inquiéta tout à coup des deux malandrins.
Mais s'ils retournent en ville, ils vont te dénoncer pour se venger.
Il craignait que la menace que représentaient les voleurs ne dissuade Ming de le reconduire à Chongqing.
T'en fais pas, répondit l'homme. Sans eau, sans nourriture, sans chevaux, ils ne sortiront jamais de la steppe.
Ils peuvent trouver de l'aide dans les villages.
Les montagnards ne pardonnent pas aux tueurs d'animaux.
Et comment le saurait-il?
Pourquoi crois-tu que Tao nous a quittés si vite? Tout c'est dans la montagne.
Finalement, il n'y a que toi qu'on laisse passer. Je me demande bien pourquoi.
Deux jours plus tard, les Mei Shan.
La montagne sacrée, murmura le vieil homme, comme il s'arrêtait en haut d'un col.
Les Mei Shan se dressaient de l'autre côté du passage, majestueux, nimbés d'un halo de nuages qui tamisait les lueurs flamboyantes du crépuscule. Le soleil descendait derrière le mont, découpant sa silhouette légèrement tremblotante dans une boule d'or fondu.
Oh ! C'est aussi beau que 10 coulées de fonte, s'émerveillait l'enfant. Je n'avais jamais vu le soleil aussi gros.
Le vieil homme hocha la tête. Décidément, la ville lui adhérait toujours à la peau, à Li, même si elle se décollait petit à petit de l'intérieur.
La moitié de la montagne disparaissait dans la masse sépia d'une forêt de bambous. La végétation s'accrochait aux versants, sautait d'un sommet à l'autre, gonflait dans les vallées, étirant jusqu'à l'horizon les reflets roussâtres du couchant sur ses feuilles.
« C'est ici qu'on s'arrête, » annonça Ming.
Li cherchait des yeux l'emplacement d'un camp, un feu, des hommes, une présence enfin. Il n'y avait que le silence de la pierre qui paraissait brûler de l'intérieur. Un silence minéral, absolu, d'une épaisseur presque palpable.
Mais il n'y a personne?
Pourquoi devrait-il y avoir quelqu'un?
Le bonhomme fit descendre l'enfant, mit pied à terre, se dirigea vers une mule. Il détacha la cage, la posa sur le sol, fouilla dans sa poche. Le garçon s'étonna de le voir décadenasser la grille.
« Mais qu'est-ce que tu fais ?»«
Allez, allez !» cria Ming, en agitant les bras pour forcer le panda à sortir.
L'animal avança de quelques pas, encore flageolant après les secousses du voyage. Il se dirigea vers Li Fong, grogna pour avoir à manger.
« Ne lui donne rien, » dit Ming.
« Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie ?»«
Je le relâche !» déclara l'homme avec un grand geste vers la montagne.
Mais tu m'avais dit...
Qu'il mourrait de faim, c'était vrai là-bas, pas ici. Devant toi s'ouvre le pays des pandas.
L'enfant resta un instant sans parler, le temps de réaliser qu'il ne rêvait pas.
Alors tu es...
Un drôle de voleur, oui. Je ramène tout simplement les pandas dans leur milieu naturel.
C'est... Oh là là!
Li bégayait de surprise. Les mots l'étouffaient presque, bloqués dans sa gorge.
Une joie, un bonheur indicible le faisait frémir des pieds à la tête, lui provoquait des picotements derrière la nuque. « Ming, Ming !» répétait-il en balançant les bras. « Et moi qui ? Mais pourquoi tu l'as pas dit ? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais un voleur ?»«
Je suis un voleur !»«
Enfin oui, d'une certaine façon. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je serais tout de suite devenu ton ami. »
Ça, tu l'affirmes maintenant, mais rien n'était moins sûr avant. Il a fallu du temps pour que le grand fleuve te lave de la poussière des villes. New Kwa t'a finalement mené à sa source, là où la terre chante dans le vent, là où la plaine s'ouvre au galop des Kiang, là où la nuit peut encore résonner du rire de cristal d'un enfant. Tu es arrivé à Lemeishan, t'élevant peu à peu de la vallée vers le sacré. Maintenant, oui, tu es devenu mon ami.
Li caressa longuement l'animal. Il faudra pourtant que je retourne à la ville, murmura-t-il.
Bien sûr, mais tu seras désormais capable de penser différemment.
Le panda se mit à tourner autour d'eux, réclamant sa pitance. Pourquoi ne veux-tu pas lui donner à manger ?
Il faut qu'il retrouve ses instincts. Il est tellement habitué à être nourri qu'il ne sait plus trouver sa nourriture lui-même.
Le visage de Li marqua une inquiétude soudaine. Mais alors, il va mourir là-bas.
C'est un jeune. Les autres lui apprendront vite. Il ne sera pas long à se diriger vers les Meishan.
On ne l'y mène pas ?
Non, c'est un chemin qu'il doit faire tout seul.
L'animal gémit encore quelques instants, les agaçant de légers coups de patte, puis il s'éloigna lentement.
Il s'en va, dit Li Feng d'une voix où perçait son angoisse.
Ming rectifia.
Il rentre. Il a senti son pays. Il va vivre entre deux mondes pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'une mère le prenne sous sa protection. Après, ça ira très vite. Il oubliera même qu'il avait connu autre chose.
Mais il y a des dangers là-bas ?
Les loups, les panthères des neiges, mais c'est sa vie.
Et les trafiquants, d'autres vont venir ?
Pas tout de suite. Les pandas ne sont vulnérables qu'en été, expliqua Ming, parce qu'ils descendent sur le plateau. En hiver, ils émigrent vers les sommets et personne ne se risque à les y suivre.
Oui, mais...
Le vieil homme lui ébouriffa la tête.
« Si des chasseurs le ramènent au zoo, lui ou un autre, je l'en ferai ressortir. Je me tiens prêt. Jusqu'au jour où je me ferai prendre, ou quand je serai trop vieux pour remonter le Yangtze sur mon sampan rouge. »
« Ce jour-là, dit Li d'une voix tremblante, ce jour-là, je te remplacerai. »
Ses yeux brillaient d'un éclat intense. La vision du garçon s'élargit tout d'un coup.
« J'irai dans tous les zoos du monde. Il y a tant à faire. »«
Regarde, » dit Ming. Kim s'est mise à courir vers la forêt. Il n'a plus besoin de nous à présent. »
Le vieil homme posa sa main sur l'épaule de l'enfant et reprit.
« Je suis heureux que tu aies compris que le nom du monde est Panda. »
Son visage rayonnait. Li découvrit pour la première fois son vrai sourire lumineux. Voici la fin de cette histoire. Deux mots sur l'auteur. Alain Surget est né en 1948 à Metz, M-E-T-Z, en Lorraine. Il s'est d'abord lancé dans la poésie, puis le théâtre, avant de se découvrir une passion pour le roman. À la fois rêve de jeunesse et désir de voyage, ses ouvrages traduisent les grands thèmes qui semblent fasciner l'auteur. Les luttes de classe et de race, les rapports entre le monde moderne et les grandes forces ancestrales, la vengeance, le destin, et surtout la lutte de l'homme avec la nature et la solitude. Il est membre de la Société d'écrivains d'Alsace et de Lorraine depuis 1977. Chez Rajo, éditeur, il a publié dans la collection Cascade Le Fils des Loups, que j'ai également enregistré, et dans la collection Les Maîtres de l'Aventure, Prisonnier de la Rivière Noire, que je n'ai pas enregistré.
pour la sonorisation de cette histoire, le bruit du train au début, les cris d'animaux, les coups de fusil, les pas des chevaux, etc. J'ai utilisé les cassettes de sonorisation de la sonothèque de bruitage Radio France. Édition OVIDIS, Tempo, T-E-M-P-O, cassette A51-93-94-95. Fin de la deuxième face de la troisième et dernière cassette, Le voleur de panda par Alain Surget.